Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'atelier de l'orthophoniste. Alors aujourd'hui, l'épisode va être consacré à l'orthographe. J'avais déjà fait dernièrement un épisode sur l'orthographe. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter parce que c'est vrai que vous aurez déjà pas mal d'informations sur l'orthographe. J'étais revenue en fait sur les différents niveaux de l'orthographe. Orthographe phonologique, orthographe lexicale, orthographe grammaticale, ce que ça comportait et puis du coup comment est-ce que l'enfant apprenait. Donc en gros, l'orthographe nécessite de façon générale, hein, les trois niveaux d'orthographe fait partie des apprentissages qui font partie des apprentissages qui sont les plus compliqués pour les enfants. Et qui nécessite un apprentissage explicite. Donc c'est vraiment, ils ont besoin, donc pour l'orthographe phonologique, ils ont besoin qu'on leur apprenne le code, c'est-à-dire du coup la correspondance entre les lettres et les sons, et bien par exemple qu'après, que quand un G, quand il y a un E après un G, ça va faire je, donc si on veut faire gue, il faut mettre un U, etc. En fait, il y a plein de petites règles à apprendre de façon explicite. L'orthographe lexicale nécessite des techniques de mémorisation, donc c'est de ce dont j'avais parlé dans le précédent podcast et ce qui avait été aussi l'objet de mon dernier atelier. Voilà, que vous pouvez retrouver en ligne sur l'atelier de l'orthophoniste.podia.com si les techniques de mémorisation de l'orthographe vous intéressent. Et là, aujourd'hui, eh bien, on va parler un petit peu de l'orthographe, mais de façon ludique, en fait. Voilà, c'est ce qui m'intéresse un petit peu aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve, grosso modo, hein, que l'orthographe, dans l'esprit des enfants, mais aussi souvent dans l'esprit des parents, je ne sais pas ce qu'il en est dans l'esprit des enseignants, mais souvent, je trouve quand même que dans l'esprit général, l'orthographe est perçue comme quelque chose de très rébarbatif, de compliqué. Alors, à juste titre, hein, c'est compliqué, mais du coup, on l'aborde de façon un peu négative, cette orthographe. On y met beaucoup d'affect et beaucoup d'affect négatif, en fait. Ce qui fait que les enfants, quand on leur parle d'orthographe, voilà, ça les met pas du tout en joie, généralement. Bien au contraire, c'est un petit peu la corvée. Quand je discute avec les parents, souvent ce qui revient dans les discussions, c'est que bah, les devoirs d'orthographe, la mémorisation de l'orthographe et la préparation des dictées, c'est quelque chose qui est rébarbatif et pas intéressant. Enfin, en tout cas, c'est souvent source de tension et voilà, c'est compliqué à la maison souvent. Et avec les enseignants avec lesquels j'ai pu discuter via les réseaux sociaux et tout ça, ils disent que c'est vrai que voilà, c'est pas toujours facile de trouver des supports attrayants, des choses qui permettent de façon ludique d'entrer dans l'orthographe et tout ça. Et pourtant, c'est vrai que c'est la clé pour tous les apprentissages en fait, hein, mais encore plus quand l'apprentissage est rébarbatif. Donc, par exemple, les mathématiques, c'est quand même quelque chose qui peut être, alors pour certains qui ont un don presque inné pour les mathématiques sont comme une vaste aire de jeu, mais pour d'autres, en fait, ça peut être aussi le chemin de Damas, quoi, la croix. Mais enfin, en fait, il y a plein de façons de tourner les mathématiques sous forme de jeu et de façon ludique. C'est la même chose avec l'orthographe, en fait. Il y a des gens qui ont des prédispositions naturelles pour bien apprendre l'orthographe et qui vont rentrer dedans sans aucune difficulté. Bon, souvent, moi, ces gens-là, je ne les rencontre pas, puisque du coup, par définition, ceux qui vont consulter l'orthophoniste, souvent, c'est qu'il y a des difficultés de lecture ou des difficultés d'orthographe. Donc voilà, moi évidemment, je rencontre quasiment que des gens qui ont des difficultés d'orthographe. Mais voilà, je sais que globalement, c'est quelque chose qui est considéré comme étant difficile, compliqué, et voire pas intéressant, voire pesant. Voilà. Et moi, du coup, j'essaye, en fait, là, le but de ce podcast, et puis le but aussi de l'atelier sur les jeux d'orthographe, là, que je vais mettre en ligne, que je sors cette semaine, c'est vraiment d'essayer de changer un petit peu cette vision qu'on a de l'orthographe et de vous donner des pistes et des clés pour en faire quelque chose de beaucoup plus ludique, d'amusant, mais vraiment amusant, hein, mais vraiment, vraiment. Voilà, moi avec les enfants en séance, on se marre avec des jeux d'orthographe. C'est tout à fait possible de proposer des choses qui soient ludiques, intéressantes, attrayantes et qui en même temps fassent travailler l'orthographe de façon efficace. Et c'est vraiment, voilà, ça c'est l'objet de mon atelier. Mais là aujourd'hui, j'avais déjà envie de vous donner quelques conseils et quelques astuces pour dédramatiser l'orthographe, pour permettre à, voilà. De comment dire, d'aborder l'orthographe avec vos enfants de façon plus légère et que les devoirs d'orthographe soient quelque chose de moins coûteux. Parce que vraiment, c'est la clé, hein, l'orthographe, c'est clair que c'est quelque chose de compliqué, c'est clair que c'est quelque chose d'assez scolaire. Donc, la plupart du temps, pour que les choses soient mieux prises par les enfants, c'est que quand on est à la maison et qu'on va faire les devoirs, on va essayer de déconnecter le plus possible ça du champ scolaire. On va essayer de décorer les salles le plus possible du champ scolaire et le faire rentrer le plus possible dans quelque chose de créatif ou quelque chose d'amusant ou quelque chose du domaine du jeu. La première chose que vous pouvez faire pour amener un enfant à s'intéresser plus à l'orthographe ou en tout cas à faire en sorte que ce soit moins rébarbatif, c'est déjà de changer les outils. Voilà, c'est-à-dire que travailler l'orthographe, travailler la transcription sur des outils qui ne sont pas des outils scolaires d'habitude, c'est-à-dire le cahier, le crayon, le stylo, ça peut déjà changer beaucoup de choses. Donc par exemple, vous pouvez tout à fait à la maison, rien ne vous empêche de travailler les dictées et l'orthographe, la mémorisation de l'orthographe et la répétition, etc., grâce à des outils plus ludiques. Je vous conseille par exemple de le faire avec, moi j'ai au cabinet les stylos qui sont de la marque Stabilo et de la marque Woody. Woody comme le bois, Wood, 3 en 1. C'est des gros crayons qui en fait permettent d'écrire sur toutes les surfaces lisses et qui sont en fait effaçables, ce qui permet en fait d'écrire sur tous les supports lisses, donc non poreux. Donc je vous conseille pas de faire ça sur un mur avec de la peinture mate. Par contre, tout ce qui est meubles laqués, tout ce qui est miroir, vitre, carrelage, ça fonctionne très très bien. À la maison, ma fille, ben elle écrit sur le carrelage de la salle de bain, sur le miroir de la salle de bain. Sur les meubles laqués, et en fait, avec un coup de chiffon un tout petit peu humide, ça part tout de suite. Au cabinet, moi j'ai ces crayons-là, et en fait, c'est pareil, les patients ils écrivent sur les vitres du bureau, ils écrivent à même le bureau, parce que j'ai un bureau laqué blanc, qui en fait, du coup, nous sert de grande ardoise et de grande aire de jeu. Et rien que quand vous proposez ça à un enfant, eh bien, ça lui plaît parce que du coup, il y a le côté transgressif de pouvoir écrire sur les murs ou sur les vitres ou voilà, de pas du tout écrire sur quelque chose qui est scolaire. Puis parce que la tenue du crayon, c'est un gros crayon, donc ça demande moins de précision en fait, ça se tient mieux dans la main. Donc en fait, ça va lui demander moins de charges pour les enfants qui, par exemple, présentent des dyspraxies, présentent des dysgraphies, pour qui, en fait, le fait de tenir le crayon est quelque chose de coûteux, hein, parce que ça, faut bien avoir en tête, hein, quand vos enfants ont des troubles des apprentissages, leur faire travailler ensuite les devoirs par des mécanismes qui sont coûteux pour eux, c'est-à-dire que si vous travaillez avec des enfants dysgraphiques ou dyspraxiques, bah, l'orthographe en les faisant écrire, c'est-à-dire en le faisant une tâche qui est coûteuse, ça peut être d'autant plus coûteux pour eux. C'est-à-dire que du coup, il vaut mieux le faire avec des crayons qui glissent tout seuls, donc avec des Velleda, avec donc les crayons dont je vous parlais qui s'effacent et qui sont super ludiques et qui ne laissent pas de traces. Donc c'est vrai que c'est chouette, vous pouvez écrire un peu partout. Vous pouvez le faire aussi tout à fait alors moi ce que j'aime bien utiliser aussi en séance, alors après faut pas avoir des tonnes de choses à écrire, mais pour quelques petites listes de mots, là si vous avez 5-6 mots à réviser, ce qui peut être très intéressant et qui plaît mais moi énormément à mes patients, ce sont les spy pens. Donc spy comme espion en anglais. Spy pen, alors moi je les trouve sur Amazon, ça se trouve aussi sur AliExpress je crois, enfin voilà, vous tapez ça sur internet et vous allez voir, on appelle ça des crayons d'espion parce qu'en fait c'est des crayons qui vont écrire avec une encre sympathique, donc en fait qui n'est pas visible lorsqu'on écrit, et qui va devoir, en fait, on va devoir le révéler avec une petite lampe, la petite lampe qui est comprise sur le capuchon du stylo. Et c'est extrêmement ludique. C'est-à-dire que du coup, on va pouvoir écrire des messages, on va pouvoir se faire des devinettes, on va pouvoir réviser l'orthographe tout simplement. C'est-à-dire que votre enfant, vous lui donnez un mot, il le réécrit avec son spy pen sur un petit carnet. Et en fait, c'est tout à fait ludique. Moi, j'ai des enfants qui, du coup, prennent plaisir à parce qu'en fait là c'est l'objet de ce crayon-là, enfin c'est ce crayon-là qui est ludique en soi et qui leur donne envie d'écrire. Donc en fait ils seraient prêts à écrire n'importe quoi. Donc servez-vous-en, ça peut être un super truc pour leur donner envie d'écrire. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser des lettres mobiles. Là, je pense notamment aux jeunes enfants qui débutent dans l'orthographe, donc en CP, CE1, quand c'est encore coûteux de devoir écrire. Vous pouvez tout à fait travailler la mémorisation de l'orthographe et la transcription avec des lettres de Scrabble ou avec des lettres qu'on peut aimanter sur le frigo. Voilà, ça c'est vraiment, il ne faut pas hésiter. Et donc là, moi, c'est ce que je propose aux parents systématiquement quand les enfants démarrent dans l'écriture. Mais après, même avec les plus grands, moi je sais que j'ai des plus grands qui aiment toujours écrire, enfin utiliser les lettres du frigo, là qu'on peut aimanter sur le frigo pour travailler leurs mots d'orthographe. Et c'est ok, c'est super. Voilà. Travailler avec une craie et un tableau, comme si du coup ils étaient le maître ou la maîtresse, ça c'est une idée aussi. Utiliser, alors là du coup, ça c'est pour changer les outils d'écriture, mais vous pouvez aussi complètement changer de lieu. Là, ça va être l'été, c'est les beaux jours. Ça peut tout à fait aussi être intéressant d'aller dans le jardin pour faire ça, d'aller sur la terrasse et de faire ça avec par exemple un pinceau et de l'eau, avec une grosse craie qu'on peut utiliser pour écrire sur le sol. Il existe des grosses craies comme ça dont on se sert par exemple pour faire des dessins ou pour faire des marelles sur le sol. Ça peut tout à fait être utilisé pour le faire avec pour réviser l'orthographe en fait. Il faut du coup essayer de casser sa vision classique qu'on a des devoirs faits au bureau et à table, enfin voilà, avec les outils de d'habitude, c'est-à-dire le cahier, le crayon, pour trouver de nouvelles façons de faire. Et en fait, vous voyez, là, on fait de la révision classique, hein, sauf qu'en fait, on change de lieu, on le fait à l'air libre, ou alors on change les stylos, on le fait avec des stylos à paillettes, des stylos qui sentent bon, des stylos effaçables, des stylos avec l'encre sympathique. On le fait sur des supports différents, on le fait sur le miroir, on le fait sur. Et en fait, c'est juste ça. Juste ça, je vous le dis d'expérience, hein, parce que c'est ce que je conseille à mes petits patients dysorthographiques, dyslexiques, dyspraxiques, dysgraphiques. Juste ça, des fois, ça suffit largement à leur donner envie de faire les devoirs. Hein. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Ensuite, écoutez, ce qui peut tout à fait être intéressant, c'est de pouvoir tourner ça sous forme de jeu. Voilà, être le premier à reconstituer un mot, par exemple, se faire des devinettes, tout ce qu'on peut tourner en jeu, c'est l'idéal pour les enfants. Et en fait, voilà, c'est l'objet de l'atelier que vous trouverez du coup là en lien de description. J'ai consacré du coup là un atelier entier sur les techniques, enfin sur, c'est pas des techniques là du coup, c'est plutôt des jeux. Tous les jeux que moi j'utilise au cabinet, tous les principes de jeux qu'on peut utiliser pour détourner des jeux qui ne sont pas des jeux destinés à l'orthographe, mais enfin des jeux d'orthographe. Comment est-ce qu'on peut appliquer des grands principes de jeu à l'orthographe? Comment est-ce qu'on peut vraiment s'amuser avec l'orthographe, quoi? Parce que c'est ce que les enfants attendent, c'est ce que les enfants adorent. Et en fait, un enfant apprend encore mieux quand il est plongé dans le jeu, quand en fait il oublie qu'il est en train d'apprendre. Voilà, le métier, n'oubliez jamais hein, que le métier principal de l'enfant, c'est de jouer et que ce par quoi il apprend le mieux, c'est le jeu. Ça va être le vecteur le plus intéressant pour atteindre l'enfant et pour entrer en communication avec lui et pour qu'il soit détendu et que du coup toutes ses sphères cognitives puissent être connectées. Parce qu'un enfant qui est tendu, un enfant qui est stressé, va pas être disponible pour les apprentissages. C'est quand il est détendu, quand il est ouvert, que en fait ces sphères cognitives-là vont être les plus efficaces, qui va avoir son attention toute focalisée. Et quoi de mieux que le jeu pour réussir à faire ça? Donc je vous invite vraiment à essayer de tourner le plus possible les choses sous forme de jeu. Et puis, bah, du coup, si vous manquez d'idées, si vous avez besoin d'idées pour présenter des jeux d'orthographe à un enfant, eh bien, je vous invite à me rejoindre dans l'atelier que j'ai dédié là-dessus parce que, du coup, voilà. Pendant 2 heures, je vous parle de jeux de lecture. Voilà, je vous donne tous mes trucs et astuces, tous mes jeux préférés et surtout tous les jeux que préfèrent les enfants et qu'ils me redemandent. Hein. Voilà, même mes petits patients dyslexiques, dysorthographiques, pour qui du coup l'orthographe est une vraie plaie, me demandent ces jeux-là. Ce sont les... Je vous présente du coup dans cet atelier les jeux qui me sont le plus demandés. Donc voilà, le maître mot, c'est détente, sortir du cadre scolaire. Changer les supports, changer un petit peu son angle d'attaque, voilà, en changeant de lieu, en changeant de support, en changeant d'outil, et en tournant les choses les plus possibles sous forme de jeu. Voilà, et bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de l'atelier de l'orthophoniste, et puis surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je suis la plus active. C'est vrai que je mets souvent en ligne des posts et puis je fais quasiment quotidiennement des petites stories dans lesquelles je présente des jeux, où je donne des conseils, où je parle de lecture, d'orthographe et d'autres choses, d'apprentissage de façon générale. Voilà, je suis aussi active sur Facebook, je poste très régulièrement, mais c'est vrai que les stories et les conseils quotidiens, c'est plus sur Instagram que je les donne. Vous pouvez aussi tout à fait rejoindre la mailing si ça vous intéresse. Là, du coup, c'est pareil, je fais toutes mes annonces d'atelier, je donne aussi des conseils, j'envoie des supports et du matériel quand j'en ai à partager. Voilà, donc si vous avez envie de vous tenir au courant, je vous mettrai en petite barre de description le lien vers la mailing et bien sûr le lien vers l'atelier sur les jeux de l'orthographe qui, si vous avez envie d'aller plus loin, je pense, vous permettra d'avoir plein de choses dans votre boîte à outils. Allez, à très bientôt pour un nouveau podcast.